Donc Simon, c'est à toi pour ta chronique.
Salut Antoine, salut, bonjour à tout le monde à la maison. Toujours une chronique optimiste et joyeuse aux apatrides, comme d'habitude. On parlera pas de la libération d'Omar Kader, ça a été quand même abondamment traité dans les médias, dans les médias plus mainstream. Quelques sujets locaux et par la suite, inévitablement, on n'a pas le choix de parler de la Méditerranée, la route migratoire qui tue des milliers de personnes. Donc, essayer de faire un bilan, on est au mois d'avril, le tiers de l'année passée, où est-ce qu'on en est? Quelles sont les réactions par rapport à ça? Quelle analyse on peut en faire? Tout d'abord, quelques sujets un peu plus locaux. Le 1er juin annonce la date butoir pour les personnes ressortissantes d'Haïti et du Zimbabwe pour régulariser leur situation avant renvoi. Donc, le moratoire sur le renvoi des personnes haïtiennes et zimbabwéennes a été levé en décembre dernier. Et on laissait jusqu'au 1er juin pour toutes ces personnes-là. Donc, ça implique environ 3 000 personnes d'origine haïtienne et 500 personnes d'origine zimbabwéenne. Donc, on leur demandait d'effectuer une demande de résidence, de l'avoir complétée, qu'elle a été reçue par le gouvernement fédéral avant le 1er juin, donc environ dans 3 semaines. Les organismes qui ont été mandatés pour aider les personnes à compléter leurs demandes sont un peu en mode panique actuellement parce que, évidemment, on calcule que ça prend à peu près 20 heures par demande. Il y en a 3 500 à traiter. On demande des documents qui sont très difficiles à trouver, comme des titres de propriété, des photos de l'habitation qui a été détruite dans le tremblement de terre, par exemple. Donc, des documents qui démontrent la situation familiale, des preuves écrites de la bonne intégration à la société d'accueil, que ce soit des lettres de professeurs, d'employeurs, d'organismes. Donc, je vais en profiter pour faire une petite annonce. Les organismes cherchent des bénévoles actuellement pour essayer d'accélérer le processus et de traiter le maximum de demandes. On sait que ce ne sera pas possible de toutes les traiter. Mais j'ai 2 numéros de téléphone pour vous. Si vous voulez donner un coup de main dans le 514, le 754-6734, ou toujours dans le 514-791-2455. Et on peut inviter les gens à aller visiter le site Internet de la Maison d'Haïti à Montréal. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er juin? On peut prévoir des renvois massifs de personnes?
On peut prévoir des déportations. On a couvert le sujet sur CKUT aussi. C'est très compliqué. Ils ont à peu près 20% de personnes qui ont rempli les dossiers. Ça paraît compliqué, ouais.
Je ne sais pas quand exactement vous aviez traité
On
ça.
en a, on a fait un sujet vendredi dessus.
OK, donc les chiffres sont pas mal d'actualité, j'imagine. Donc, bon, on peut passer à un autre sujet à ce moment-là, puisque ça a déjà été traité. Alors, on va souhaiter quand même bonne chance à tout le monde.
Ouais, on leur souhaite bonne chance.
Ce ne sera pas facile et on prévoit qu'effectivement, il y en aura beaucoup de déportations, à moins que le délai soit augmenté et les procédures simplifiées. Avez-vous déjà traité d'une note interne du SCRS?
Non, on n'a pas traité.
Il y avait votre invité, plutôt M. Legault, du collectif opposé à la guerre, qui parlait des Five Eyes, qui sont les autres 5 pays, Canada, États-Unis, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, qui partagent des informations relatives à la sécurité, et qui espionnent un peu tout le monde, comme il disait tantôt. Donc, le Canada, d'après une note interne reçue en vertu de la loi sur l'accès à l'information par la presse canadienne, on apprend qu'il est en train de développer des partenariats avec d'autres pays. Donc, de sortir de ce cercle des 5 pays anglo-saxons. Ce que les 4 autres pays de ce cercle-là ne font pas. Donc, le Canada prendrait l'initiative de conclure des partenariats avec des alliés dont on ne connaît pas l'identité,
encore.
mais parce que ça a été caviardé dans la note interne qui a été rendue publique. Mais on peut présumer que c'est les alliés actuels du Canada, donc Israël, Chine, Turquie, Arabie Saoudite. Ce partage d'informations-là entre les 5 pays anglo-saxons provoque déjà des dommages et des abus. On a en tête, par exemple, Omar Kader qui a été emprisonné, torturé suite à une transmission d'informations erronées entre le Canada et les États-Unis. Il y a un rapport qui avait démontré qu'il y avait eu 3 autres arabo-canadiens qui avaient subi des traitements injustifiés en vertu de ce partage de renseignements-là à l'intérieur des Five Eyes. Donc, je sais pas comment on peut présumer de la suite maintenant que le Canada va partager de l'information avec des.
Ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire la politique du gouvernement canadien actuel qui tend à toujours plus de contrôle et de militarisme.
Oui, mais qui perd le contrôle en même temps de la sécurité. On sait que les listes de personnes présumées extrémistes se contaminent, sont pleines d'erreurs, sont pleines de témoignages, sont souvent basées sur des témoignages obtenus sous la torture, donc qui n'avaient absolument rien. Donc, il va falloir se surveiller bientôt. Petite dernière nouvelle locale avant de parler de la Méditerranée. Frontière, poste frontière qui a été fermé, tout simplement, entre le Canada et les États-Unis, c'est-à-dire entre deux villes, une toute petite ville en Alaska et une ville Stewart, en Colombie-Britannique, un peu plus importante. Par contre, la frontière est fermée de nuit, de minuit à 8 heures. C'est carrément fermé, on peut pas traverser. Et c'est la seule façon d'accéder à des soins de santé d'urgence pour les personnes qui habitent en Alaska, c'est par là.
Donc, OK.
Il n'y a plus de soins de santé d'urgence entre minuit et 8 heures maintenant. Ça fait pas partie d'un projet pilote dont on avait déjà parlé de frontières intelligentes, c'est-à-dire de contrôler à distance c'est qu'on skypait plus ou moins avec quelqu'un qui est dans un bureau et il nous ouvrait à distance la frontière. Là, c'est carrément, il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun bouton d'urgence non plus. Donc, il faudrait carrément casser la barrière pour pouvoir passer. Donc, on craint aussi, en cas, par exemple, de catastrophe naturelle, c'est la seule route d'évacuation pour les personnes qui habitent en Alaska. Donc, une décision un peu étrange. Les représentants gouvernementaux de l'Alaska se sont plaints aux autorités canadiennes, mais sans résultat, évidemment. Donc, la Méditerranée, j'ai quelques minutes pour en parler.
Bien sûr.
Ça, est-ce que c'est un sujet que vous avez...
On en a un peu parlé, mais sur le plan local, plus sur les actions des locaux
des associations,
oui,
plutôt.
L'action des associations locales, oui.
OK, ça, j'en parle pas trop, donc ce que je vais vous dire va probablement compléter peut-être l'information dont vous avez déjà parlé. Donc, peut-être en vrac, vous faire des citations de ce qu'on peut lire dans les journaux, donc pour l'horreur qu'on peut voir. C'est des phrases que je suis allé chercher, bon, que j'ai sorti de leur contexte, que je suis allé chercher dans différents articles. Par exemple, le mystère est entier sur le sort des 400 migrants disparus en Méditerranée. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Les survivants ont affirmé qu'il y avait 500 à 550 personnes à bord de leur bateau, dont de nombreux jeunes. Les porte-parole de la garde-côte italienne a souligné qu'aucun survivant n'avait été retrouvé en dépit des recherches intensives. On dit qu'ils étaient 137 sur un canot pneumatique qui s'est dégonflé ou qui a explosé, ce n'est pas clair, et qu'une partie d'entre eux est tombée à la mer. Je pourrais continuer comme ça longtemps.
Beaucoup. Ça arrive tous les jours en Méditerranée. Oui.
Tous les jours, on en lit. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? On est début mai. Donc, comme je disais en introduction, le tiers de l'année est passé. Donc, on prévoit une année malheureusement record et de très loin pour le nombre de morts de personnes blessées en Méditerranée. Je crois pas avoir le temps. J'avais fait un historique.
Tu peux te lancer, c'est bon.
J'avais fait... En tout cas, c'est un résumé d'un résumé, si on veut, qui explique un peu pourquoi partent principalement de la Libye les principaux bateaux passeurs, si on veut. Donc, j'ai résumé les propos de Ferruccio Pastore, directeur du Forum international européen de recherche en immigration. Donc, je commence la lecture. Les mouvements migratoires sont profondément ancrés dans l'histoire de la Libye. En raison de son positionnement géographique, la Libye a vu les populations nomades sahariennes transiter sur son territoire depuis des siècles. À la fin des années 90, Kadhafi avait encouragé l'émigration de travailleurs vers la Libye, attirés par ses ressources, notamment pétrolières. Le guide de la révolution libyenne avait alors mis en place une stratégie d'ouverture des portes qui s'inscrivait dans un projet panafricain afin de gagner du crédit auprès des leaders de la région. Cette orientation politique a provoqué un afflux massif de migrants en provenance de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, particulièrement du Nigeria, du Mali, du Sénégal, dont la situation s'est détériorée, surtout à partir des années 2000. La guerre civile qui a suivi la chute du régime de Kadhafi en octobre 2011 a encore aggravé la situation des migrants, désormais confrontés aux affrontements entre deux gouvernements rivaux et à la fermeture relative ou complète des pays européens. À ce chaos s'ajoute la menace de groupes armés désireux de consolider leur présence dans la région. Dans ce contexte, marqué par l'absence de tout cadre juridique ou humanitaire, les migrants sont devenus la proie de milices locales où tout le monde est autorisé à faire ce qu'il veut des immigrés. Cela donne lieu à une exploitation brutale, marquée par une multiplication des kidnappings. Depuis le début de la guerre civile, s'ajoutent des populations migrantes venues essentiellement de la Corne de l'Afrique, donc Somalie, Éthiopie, Érythrée. Les personnes migrantes sont exploitées dans des conditions de vie dégradantes, arrestations arbitraires, violences physiques et psychologiques, travail forcé. Les personnes africaines subsahariennes doivent faire face au racisme d'une partie de la population, d'autant plus qu'ils sont associés au souvenir de la politique migratoire de Kadhafi. Ça achève. S'ajoutent depuis quelques années des milliers de personnes provenant de Syrie, d'Irak, etc., qui ont de plus en plus de difficultés à passer par les routes terrestres via la Turquie et la Grèce, et qui donc se rabattent sur la Libye, qui a des infrastructures et qui a déjà des réseaux bien organisés. Pour échapper aux affrontements entre milices armées, les migrants en Libye sont de plus en plus tentés de traverser la Méditerranée le plus rapidement possible. Une très large partie d'entre eux quittent les côtes libyennes pour rejoindre l'Italie. Donc, toutes ces raisons historiques expliquent pourquoi les routes migratoires traditionnelles mènent principalement vers la Libye, donc à partir de l'Afrique ou du Proche-Orient, et pourquoi les réseaux de passeurs y ont prospéré plus qu'ailleurs, et pourquoi c'est devenu une plaque tournante de la migration des personnes vers l'Europe. Quelques statistiques. Le prix d'une traversée coûte entre 700 et 7000 $ US.
Oui, c'est... Pour des Africains, c'est un prix énorme.
Oui, pour, oui, pour des gens même qui ont marché depuis des semaines et qui n'ont pas travaillé.
Surtout que ça, certains témoignaient en disant que les passeurs leur disaient que l'Italie, en partant de la Libye, était à 5 km, sachant qu'il y en a 170. On imagine la peur de ces gens-là qui ça doivent même pas s'imaginer ce que c'est.
Je ne sais pas si on leur dit en cours de route, même 170 km, j'ai aucune idée non plus combien de temps ça prend
ça.
Une vitesse de croisière normale. Donc, de ce prix-là, de 700 à 7000 $, ceux qui payent le plus sont sur le pont s'il fait beau, et inversement s'il fait pas beau. Exemple d'une fin de semaine assez occupée quand même, la garde côtière italienne est intervenue auprès de 7000 migrants entre vendredi et dimanche. Ça, c'était au début du mois d'avril. Elle a aussi repêché 10 cadavres. 1500 à 1800 personnes migrantes sont mortes depuis le début de l'année contre 47 à la même date en 2014. On connaît 35 fois plus de morts actuellement. Je vais passer un peu pour les statistiques, mais juste pour dire qu'on prévoit qu'environ 30 000 personnes pourraient mourir cette année en faisant la traversée de la Méditerranée entre l'Afrique et l'Italie ou la Grèce, peu importe. Pourquoi on passerait d'environ 1800 personnes à 30 000, si on est au tiers de l'année, c'est que c'est la petite saison qui était commencée. Donc, la belle saison arrive, le nombre de traversées va augmenter. Je constate qu'on manque de temps, malheureusement. Je pense que j'aurais été...
Oui, mais en tout cas, ta chronique était très, très intéressante. Et donc, c'est vrai, pour tous les auditeurs, en profondeur, c'est fini. Et donc, on va... Et la chronique de Simon Zapatrie d'Anonyme est aussi finie. Merci beaucoup, Simon.
À compléter
la prochaine fois, bien sûr.